Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal.
Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de cette édition, le président de la République, Ahmed Tebboune, rend hommage aux défunts, l'ancien président de la République et le Moudjahid Lemine Zeroual, en se recueillant à sa mémoire au palais du peuple à Alger auparavant. Et dans la matinée, Tebboune s'est rendu à l'hôpital militaire Mohamed Serir Nakache à Alger pour un dernier hommage. Lemine Zeroual, décédé hier à l'âge de 85 ans, une cérémonie de recueillement a été organisée au Palais du Peuple à Alger à la mémoire du défunt qui sera inhumé demain dans sa ville natale Betna. Retour dans l'édition, cette édition, sur le parcours d'un grand homme d'État, homme de dialogue, dont l'engagement a permis de rebâtir les institutions de la République au moment où le monde tournait le dos à l'Algérie. Dans l'activité diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est à Zagreb, chargé par le président de la République. Le chef de la diplomatie effectue une visite officielle en Croatie, une visite qui vise à renforcer le dialogue politique et consolider la coopération économique entre les deux pays. Météo Algérie, émis des BMS annonçant des neiges, pluies orageuses accompagnées localement de chutes de grêle qui affecteront plusieurs régions du pays. Et par ailleurs, 10 personnes ont été blessées dans un carambolage survenu aujourd'hui dans la wilaya de Blida. Dans l'actualité internationale, les frappes israéliennes sur le Liban ont tué plus de 1238 personnes. Depuis le début de la guerre entre Israël, l'entité sioniste, et le Hezbollah pro-iranien, le 2 mars dernier. Et par ailleurs, 14 personnes ont été tuées, 23 autres blessées dans une frappe de drone menée par les autres forces de soutien rapide sur la ville de Dilin dans l'état soudanais du Kordofan. Et en sport, en judo, les Algériens dominent à l'Open de Dakar au Sénégal. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Algérie est en deuil pour 3 jours et depuis hier, le Moudjahid, ancien président de la République, Lemine Zeroual, est décédé hier des suites d'une longue maladie à l'hôpital militaire Mohamed Serir Nakache à Alger à l'âge de 85 ans. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu hommage au défunt Lemine Zeroual. Il s'est rendu ce matin à l'hôpital militaire Mohamed Serir Nakache à Alger avant de se recueillir à sa mémoire au Palais du Peuple où il a signé le registre de condoléances. Le président Tebboune était accompagné du général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Une cérémonie de recueillement a été donc organisée au Palais du Peuple à Alger. Le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le premier ministre, des membres du gouvernement, des représentants diplomatiques accrédités en Algérie et des citoyens venus en nombre se recueillir à la mémoire du défunt Lemine Zeroual, un homme qui avait dirigé l'Algérie dans la douleur au fil de la décennie noire. Un grand homme d'État, un moudjahid de première heure, il rejoint les rangs de l'ALN alors qu'il n'avait que 16 ans. Un engagement qui l'accompagnera toute sa vie. Nina Hadouche.
Les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre ainsi que les membres de son exécutif, des moudjahidines, des responsables de hautes instances nationales ainsi que des représentants du corps diplomatique et de nombreux citoyens étaient présents au Palais du Peuple pour rendre un dernier hommage à l'ancien président Lemine Zeroual. Tous évoquent un moudjahid de la première heure et un homme d'État dont le parcours reste gravé dans les mémoires.
Nous avons perdu un homme d'État, un président au sens propre du mot, nationaliste, juste, honnête et un homme qui a lutté contre la corruption, contre l'intégrisme religieux et qui avait une position très forte.
L'Algérie est triste, elle a perdu un grand homme, un homme de dialogue, un homme de conviction, un moujahid digne de ce nom, qui a été à la hauteur de ses missions, particulièrement lors d'une période difficile de terrorisme. Il a réussi quand même à redonner espoir au peuple algérien.
Un homme très brave, engagé, militant authentique de la première heure, qui se distingue par une vaillance rarement égale. C'est une grande perte pour l'Algérie.
C'était un grand patriote. Un grand symbole que nous venons de perdre, qui restera quand même dans l'histoire algérienne.
La foule était ainsi nombreuse tout au long de la journée pour rendre un dernier hommage à un homme qui aura marqué l'histoire de notre pays.
Le parcours de l'ancien président Lemine Zeroual a été marqué par sa lutte ferme contre le terrorisme. Homme de dialogue, son engagement a permis de rebâtir les institutions de la République au moment où le monde tourner le dos à l'Algérie. On écoute le témoignage de Mohamed Tahir, membre fondateur du RND, membre fondateur de la première législature du Conseil de la Nation, créée en 1997. Il en parle à Hanan Seissi.
اليمين زروال il n'y avait pas d'institution en Algérie le blad rahat il a remis sur pied en place les institutions nous avons commencé par l'élire حطينا l'institution présidentielle بعد مراها après avoir fondé le parti RND le 4 février 1997 nous sommes allés aux élections le 5 juillet pour poser l'Assemblée nationale ensuite nous avons posé les institutions locales les APC les APOI nous les avons posé le 23 octobre 1997 et ensuite chambre haute du gouvernement le 25 décembre 1997. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'ONU nous a envoyé un panel. Terina Lina, un embargo qui ne disait pas son nom. On ne pouvait même pas acheter des cartouches de chasse pour lutter contre le Jma'adi Kanoui Batoulhoum Slah Mughrib ou payé par Israël ou France. Nous avons posé des institutions où le bled ou le bled.
La classe politique également affectée par la disparition de Yemin Zerouel Abdelmalek Mbarak, président du parti FLN, a rendu hommage à un homme d'État engagé, rappelant son parcours de la révolution à la présidence de la République. Abdelkrim Mbarak, président du parti FLN, il est contacté par Smaïl Mimouni.
L'Algérie a perdu l'un de ses fils dévoués qui a rejoint la révolution dès son jeune âge. Il a occupé plusieurs fonctions, notamment au sein de l'armée de libération nationale, puis de l'armée nationale populaire, avant d'assumer la présidence de la République. Nous prions Dieu le Tout-Puissant de lui accorder sa vaste miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis.
Mounder Boudin, secrétaire général du Rassemblement National Démocratique AND, de son côté, souligne l'image d'un homme simple et proche des citoyens, resté fidèle à ses racines à Betna. Mounder Boudin, secrétaire général du Rassemblement National Démocratique, contacté par Smaïl Mimouni.
Il était aussi grand en tant que citoyen qu'il l'a été en tant que responsable. Il est revenu parmi les siens en simple citoyen à la retraite, arpentant les ruelles, les rues et les places de Batna, menant une vie ordinaire. Fils de Lorès, il y est retourné pour y vivre paisiblement sa retraite. Chacune de ses apparitions renforçait l'image qu'avaient de lui les Algériens, celle d'un homme sage, calme, mesuré dans ses propos et réfléchi dans ses écrits.
De son côté, le président du parti Al-Fajr al-Jadid, Tahar Ben Bamesh, présente ses condoléances et salue le parcours d'un dirigeant ayant marqué l'histoire.
Nous présentons nos sincères condoléances au peuple algérien ainsi qu'à la famille de notre défunt, Monsieur Yemin Zerouel. Mujahed et ancien président de la République, j'ai connu Monsieur Zerouel qui a été ministre de l'Industrie, puis chef de l'État, avant de devenir président de la République. Je l'ai côtoyé de près à travers plusieurs rencontres et entretiens durant ces différentes étapes. Aujourd'hui, nous perdons un homme d'envergure et un Mujahed de premier plan qui a apporté une contribution positive au pays et au parcours de tous les Algériens.
C'était Latahar Ben Baybesh, président du parti Al-Fajr Al-Jadid. Et l'émotion est la même d'est en ouest, du nord au sud. Les citoyens gardent en mémoire la contribution du feu et Minzerouel pour réinstaurer la stabilité et remettre sur pied un pays alors au bord du gouffre.
خبر وفاته كصاعقة علينا كباقي الشعب الجزائري فلذلك نعزي أنفسنا ونعزي أسرتنا ونعزي جميع الشعب الجزائري
نتقدم بتعازينا الخالصة لعائلته ونعزي أنفسنا في فقدان هذا الرجل الأب المجاهد
والشي اللي داره في مساره خاصة في المرحلة اللي حكمها إن شاء الله تحسب في ميزان حسناته
مانيش راح نزيد على وش قالوا كامل الجزائريين على الرئيس الراحل اليمين زروال كان مخلص لوطنه طبعا لبى النداء الجزائر منين احتاجته القريب ولا البعيد شهدوا على سمعته طيبة وتواضع نتاعه.
Ce sont là des témoignages recueillis dans les quatre coins du pays par l'ensemble de nos correspondants et collègues de la Radio Nationale. Rappelons que le défunt, l'ancien président de la République et l'ancien Mujahed, le Mujahed Yamin Zeroual, sera inhumé demain au cimetière de Bouzoran dans sa ville natale, Betna. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans le reste de l'actualité, chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé aujourd'hui à Zagreb pour une visite officielle en République de Croatie. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à renforcer le dialogue politique et à consolider la coopération économique entre l'Algérie et la Croatie, notamment dans les domaines où les deux parties disposent d'atouts complémentaires. À cette occasion, Ahmed Attaf s'entretiendra avec son homologue croate, Gordan Grlić Radman. Il devra également être reçu par les hautes autorités de ce pays. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounes Magraman, a co-présidé aujourd'hui au siège du ministère à Alger avec le secrétaire au ministère des Affaires étrangères chargé de la coopération avec les pays du sud de la République de l'Inde, Nina Malhotra, les travaux de la 7e session des consultations politiques algéro-indiennes. À cette occasion, les deux parties ont salué les liens historiques et les relations d'amitié et de coopération unissant l'Algérie et l'Inde, ainsi que la dynamique positive des relations bilatérales. Les discussions ont permis d'aborder les voies et moyens de promouvoir les relations de partenariat stratégique au plus haut niveau, conformément aux potentialités dont disposent les deux pays dans divers domaines, ainsi que d'examiner le calendrier des prochaines échéances bilatérales afin de les mettre au service des intérêts communs des deux pays. Les deux parties ont également échangé leurs vœux sur plusieurs questions régionales et internationales d'actualité d'intérêt commun, en particulier celles liées au développement de la situation dans les espaces d'appartenance des deux pays. Et l'ancien ministre égyptien des Affaires étrangères, Nabil Fahmy, a été nommé aujourd'hui à l'unanimité au poste de secrétaire général de la Ligue arabe. Sa nomination sera officiellement entérinée par les ministres arabes lors du prochain sommet prévu en Arabie Saoudite avant une prise de fonction le 1er juillet, pour un mandat de 5 ans. L'ancien haut diplomate qui a dirigé les Affaires étrangères égyptiennes de juin 2013 à juillet 2014 deviendra le 8e égyptien à la tête de l'organisation basée au Caire, en succédant à Ahmed Aboulraïth en poste depuis 2016. Fahmy, 75 ans, a déclaré que sa future fonction impliquait une grande responsabilité compte tenu des violations flagrantes du droit international. Et intervenant lors de la 165e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf a exprimé la solidarité d'Alger avec les pays arabes touchés par les frappes iraniennes, qualifiées d'injustifiées, inacceptables. Attaf appelle ainsi l'ensemble des parties à privilégier la voie du dialogue et de la diplomatie pour résoudre leurs différends. L'Algérie met en garde contre les conséquences des interventions militaires. Rappelons qu'elles ont produit par le passé que davantage d'instabilité et dénonce les attaques sionistes contre le Liban et exprime son inquiétude face à la situation en Irak, tout en réaffirmant que la question palestinienne demeure au cœur des tensions régionales. Et guerre au Moyen-Orient, Donald Trump évoque une potentielle offensive terrestre en Iran, avec notamment l'arrivée de troupes du corps, des marines et d'unités parachutistes, ce qui témoigne d'une montée en puissance des préparatifs pour des actions probablement limitées contre des cibles sur le territoire iranien. Quelles sont les chances de réussite d'une telle manœuvre? Avec Robert Mamoracini, expert en stratégie militaire, il répond aux questions de notre journaliste Liesterini.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une invasion grand style de l'Iran, parce que vu les effectifs engagés actuellement, c'est-à-dire la 82e Airborne, deux forces des Marines, éventuellement 10 000 hommes, c'est juste pour établir une tête de pont ou pour prendre l'île de Karg, mais absolument pas pour faire une invasion complète de l'Iran. Ils sont absolument pas préparés à ce à quoi ils veulent s'attaquer. Ils pensent que l'Iran, c'est comme l'Irak. Au plan militaire, je ne vois pas du tout l'intérêt d'une telle opération. Néanmoins, étant donné l'état d'esprit du président Trump, rien n'est impossible. Et s'il se passe quelque chose, ça sera vraiment une opération très limitée, c'est-à-dire une opération médiatique pour montrer qu'ils sont capables de frapper et repartiront immédiatement. Et vu les effectifs qu'ils ont actuellement sur place, s'ils déclenchent ça avant l'arrivée des 10 000 hommes supplémentaires, ce ne sera pas une tête de pont, ce sera une opération ponctuelle.
Et nouvelle escalade alors que la guerre contre l'Iran entame son deuxième mois. Les Houthis affirment avoir mené ce matin une deuxième opération et justement qui commence à rationner l'utilisation des intercepteurs de missiles de pointe dans l'espoir de préserver ses stocks d'armes. L'entrée officielle des rebelles yéménites en soutien à Téhéran dans la guerre en cours marque un élargissement inquiétant, accentuant le risque d'embrasement régional. Les regards se tournent désormais vers la mer Rouge, où le détroit stratégique de Bab el-Mandeb devient un point de tension majeur, menaçant les routes commerciales alors que la situation se dégrade au golfe Persique. Le détroit d'Ormuz, passage clé de l'approvisionnement énergétique mondial, serait désormais fermé et miné par l'Iran. Ce matin, le porte-parole du Kremlin évoquait les conséquences dévastatrices pour l'économie mondiale de la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. On écoute à ce propos cet éclairage de l'analyste politique Hichem Lahmissi. Il est contacté par Rabia Slimani.
L'entrée en guerre des Yéménites contre les ennemis de l'Iran, ce qui fait jouer encore une nouvelle carte dans la guerre économique qui est menée par l'Iran et ses alliés contre ses agresseurs. Avec la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb, c'est tout le commerce par la mer Rouge et le canal de Suez qui est touché. Donc une grosse part des échanges économiques mondiaux, et pas simplement le commerce énergétique, donc le commerce du pétrole et du gaz des pays arabes et de l'Iran, mais c'est également les relations commerciales entre l'Europe et l'Asie qui vont être très fortement perturbés, qui vont forcer les opérateurs soit à trouver d'autres itinéraires en faisant le contournement par l'Afrique du Sud, qui vont très certainement jouer comme des éléments de pression supplémentaire contre les États-Unis, avec une possible crise politique très grave. Au moment même où aux États-Unis on assiste à des manifestations massives contre la guerre et contre Donald Trump, et je pense à falloir s'attendre à un terrible retour de bâton pour Israël, qui va pousser à creuser vraiment la défiance entre ce pays et les États-Unis, qui sont son principal soutien sur ce volet économique, tout particulièrement parce que les marchés, lobby économique, ne vont pas pouvoir accepter cette situation.
Et un point de situation en Palestine occupée des frappes sionistes avant et en visée, la zone d'Al-Mawassi à Khan Younes en fait 8 martyrs, a indiqué à la presse Mohamed Al-Mourayer, un responsable de l'organisme de secours. Une personne a également est tombée en martyr au rond-point de Khan Younes. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, parmi les victimes de samedi soir figurait une fillette. À noter, au moins 702 Palestiniens sont tombés en martyr depuis le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, selon le ministère de la Santé à Gaza. Et des experts des Nations Unies exigent de l'entité sioniste de libérer immédiatement le docteur Hossam Abu Safiya, avertissant que ce médecin palestinien originaire de Gaza a été victime de tortures graves et d'autres exactions pendant sa détention dans une prison de cette entité. Les rapporteurs spéciaux de l'Organisation des Nations Unies ont indiqué dans un communiqué avoir reçu des informations selon lesquelles l'état de santé d'Abu Safiya reste critique. On lui a systématiquement refusé les examens médicaux et les traitements indispensables. On l'a privé de soins essentiels à un point que tel plutôt, à un point tel que sa vie, pardon, un point tel que sa vie, sa santé et son bien-être ont été gravement mis en danger, selon leurs propos. Et les frappes israéliennes sur le Liban ont tué plus de 1238 personnes depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. Le 2 mars dernier, dont 124 enfants, annoncé dimanche, ou plutôt aujourd'hui, le ministère de la Santé, rien que samedi et dimanche, 49 personnes ont été tuées, selon le ministère de la Santé, parmi elles 10 secouristes et 3 journalistes. Et rappelons que plus d'un million de personnes ont par ailleurs été déplacées à cause de bombardements des ordres d'expulsion de l'armée israélienne. Retour chez nous, des chutes de neige affecteront aujourd'hui et demain lundi les reliefs dépassant les 900 mètres d'altitude dans plusieurs wilayas de l'Ouest, selon un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de météorologie. De niveau de vigilance orange, le BMS concerne les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès et Naama, et depuis ce soir à 21h jusqu'à demain 15h, l'épaisseur de la neige est estimée entre 5 et 15 cm. Par ailleurs, des pluies parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vent sous orage continueront d'afficher aujourd'hui demain aujourd'hui demain plusieurs wilayas de pays, indique le BMS de météo Algérie. De niveau de vigilance orange, le BMS concerne les villages de Chlefti, Pazalj et Boumerdès Tizi Ouzou, Simsilt Medeine de Flabli d'Abouira, et sont également concernés par ces prévisions avec des quantités de pluie oscillant entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement les 60 mm et jusqu'à demain 12h. Plus de précisions juste après le journal Le Bulletin Météo avec Lila Djibour. Et par ailleurs, avant d'arriver à l'actualité sport, le CIAL a annoncé la programmation des travaux de maintenance périodique au niveau de l'installation des installations de la station de dessalement d'eau de mer Fouca 2 dans la commune de Fouca. Et c'est jusqu'au mercredi 1er avril, entraînant un ajustement de programme de distribution d'eau dans plusieurs communes de l'ouest de la capitale et également de la wilaya de Tipaza. Cette opération entraînera une modification du programme de distribution dans les communes de Zeral d'Astanwali Nbnien Hammamet, et des perturbations du débit de la pression de l'eau seront enregistrées dans les communes de Tessal al-Marja, Douira, Rahmania, Malma, Oulet Fayed, Suidania, Babersen, Khreissi, Adaralia, Al-Achour de l'Ibrahim, Chiraga, jusqu'à jeudi 2 avril, 23h20. Il est l'heure de retrouver Abdallah Belmeni pour l'actualité sport. Abdallah, bonsoir.
Bonsoir, Mounir.
Judo, je le disais en titre, forte domination des athlètes algériens à l'Open de Dakar au Sénégal.
Effectivement, la sélection algérienne de judo, messieurs et dames, a dominé l'Open de Dakar en terminant en tête du classement final avec un total de 27 médailles. 8 en or, 7 en argent et 12 en bronze. Les athlètes qui ont monté sur la plus haute marche du podium en pour nom Rali Marahma chez les moins de 48 kg, Ben Yahya Mounir en moins de 60 kg, Moudetter en moins de 66 kg, Driss Mesoud en moins de 73, Belbelhout Abdeslam en moins de 81, Kabri Oussama en moins de 90, Benatia Rayan Zakaria chez les moins de 100 kg et enfin Lili Mohamed El Mehdi dans la catégorie des plus de 100 kg. Prochain rendez-vous pour nos judokas, le championnat d'Afrique des Nations en individuel et par équipe mixte du 4 au 6 avril prochain au Kenya.
Et football, Abdallah, en Ligue 1, la Ligue de football professionnel a annoncé un changement au niveau de la programmation.
Et oui, les trois rencontres en retard comptant pour la 17e journée du championnat de la Ligue 1, initialement programmée pour lundi, ont finalement été reportées à mercredi, soit suite au décès de l'ancien président de la République, le Moudjahid Lyamine Zeroual. Le derby algérois opposant le Bouloudia d'Alger à l'USM Alger aura ainsi lieu mercredi au stade Ali Ammar de Douira à partir de 16h et à huis clos, alors que la rencontre entre le Parado Athlétique et le Chebab Drouya des WSD se jouera au stade du 20 août à partir de 15h. La troisième rencontre en retard verra la JS Kabylie recevoir le même jour l'étoile sportive de Ben Aknoun au stade Aïd Ahmed de Tizi Ouzou à 16h.
Avec le football nous restant, Abdallah Belmeni, la CAF réforme encore le football africain.
Réunie en congrès ce dimanche au Caire, l'instance a décidé de porter le nombre de nations qualifiées à la CAN à 28 nations au lieu de 24 pour la prochaine compétition qui aura lieu au Kenya, au Ouganda et en Tanzanie en 2027. 28 nations devraient ainsi se disputer le trophée. Depuis 2019, 24 se font la face sur les 54 nations du continent affiliées à la FIFA. Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, a ensuite déclaré que l'édition suivante se tiendra en 2028, puis en 2023. Une Ligue des Nations de la CAF devrait également voir le jour.
Merci beaucoup Abdallah Belmeni pour toutes ces précisions. 23h23, c'est la fin de ce journal réalisé par Zindine Khawait et à la console technique Kerimo Bagbagi. Je vous retrouverai à minuit pour la synthèse. À tout à l'heure.